Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Ben, vous l'avez vu la semaine dernière, il y a l'acteur américain Luke Perry, qui était assez connu pour son rôle de Dylan dans Beverly Hills 90210 dans les années 90. Ou si vous êtes plus jeune, ben, vous l'avez vu dans Riverdale, il faisait Fred Andrews. Pour ceux qui regardent Netflix, vous êtes pas mal nombreux. Malheureusement, Luke Perry est décédé il y a quelques jours d'un AVC à 52 ans. C'est vraiment pas vieux. Pour en mourir. Évidemment, il y a peu d'informations là-dessus. On a beaucoup parlé au début d'une crise cardiaque. On s'est dit qu'il y avait une maladie cardiaque. Puis finalement, on a appris que c'était probablement plus un AVC, un peu comme celui qu'avait vécu José Boudreau, même si, bon, les cas sont tous uniques quand on regarde ça. Je ne veux pas rentrer dans le cas de Luke Perry. Je n'ai pas lu ce que le coroner en a conclu. Mais une chose est sûre, c'est que la nouvelle a ébranlé beaucoup de gens et je voulais qu'on revienne là-dessus parce que vous avez été quelques-uns à me poser des questions à ce sujet-là. Est-ce qu'on est à risque? Comment savoir si on l'est d'abord? Puis je trouvais que c'est des questions intéressantes et importantes. Comment savoir si on est à risque de développer une maladie cardiaque? Il y a des gens qui en ont depuis très longtemps, qui vivent avec ça. C'est le cas de mon invitée Christine Carrier, qui souffre depuis son adolescence de crise de tachycardie supraventriculaire.
Oui, bonjour Isabelle.
Un mot qui peut sembler compliqué. Merci d'être là, Christine. En fait, ce que ça veut dire, c'est que votre cœur, il s'emballe, il part
c'est
comme
ça,
sans vous prévenir.
Il ne prévient pas et il peut monter jusqu'à 220. Ma plus grosse crise, je suis allée à 220 pulsations minute.
Et vous ne couriez pas le marathon, là?
Pas du tout. Et ça ne prévient pas du tout. Ça se déclenche en 3 secondes. Je ne sens pas venir. Et si la crise n'est pas terminée, si au bout de 10 secondes, je n'ai pas arrivé à maîtriser, ben là, je sais qu'il faut que je parte à l'hôpital.
Et est-ce qu'on sait pourquoi vous avez ça?
Un problème du circuit électrique du cœur. Le docteur peut peut-être en dire plus.
On a avec nous le docteur Nicolas Noiseux, qui est porte-parole également de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du CHUM. Merci, docteur Noiseux, d'être avec nous. Les chiffres sont assez incroyables. Ce qui concerne l'AVC et les maladies cardiovasculaires, on parle de toutes les 5 minutes au Canada, une personne qui en meurt.
Oui. Alors, bonjour Isabelle. Oui, c'est un problème de taille. Hein. C'est un problème qui touche... on va dire qu'une personne sur deux va mourir, les femmes, et une personne sur trois, les hommes, de mourir d'une maladie cardiovasculaire ou AVC.
Donc, une femme sur deux, un homme sur trois. Oui. Donc, ça touche plus les femmes que les hommes?
Ça touche plus les femmes que les hommes. Et puis, on a toujours pensé que les femmes étaient, un peu épargnées par la maladie cardiovasculaire. On sait maintenant qu'après la ménopause, on sait que les femmes vont rejoindre rapidement les hommes en termes d'incidence, de complications. Puis aujourd'hui, ben, les maladies des cancers du sein, par exemple, qui sont plus fréquents chez les femmes pour comparer aux maladies cardiovasculaires, vont tuer moins de femmes. Donc, les femmes vont mourir plus des maladies cardiovasculaires que des complications reliées au cancer du sein.
Wow! Ce que vit Christine, c'est fréquent, ça, chez les femmes, cette tachycardie?
C'est quelque chose, oui, fréquent. Chez les jeunes aussi, on a beaucoup de patients qui ont des conductions électriques là, un peu anormales dans le cœur. Et ça peut être provoqué par l'anxiété, la prise de café, de médicaments, des choses comme ça.
Le stress?
Et le stress aussi, oui. Et ça peut être assez incapacitant parce que ça peut réduire les capacités à l'effort. Ça peut rendre les symptômes, les gens peuvent être essoufflés. Et lorsque l'arythmie persiste, on a des patients qui sont en arythmie chronique. Par exemple, la fibrillation auriculaire. Et ces patients-là vont avoir un risque d'avoir des caillots qui vont s'accumuler dans le cœur et ça peut monter au cerveau, faire un AVC, par exemple.
Donc, comment on sait si on est à risque d'avoir ce genre de maladie cardiaque?
Ben, les maladies cardiovasculaires, c'est un ensemble de spectres. Et puis, les maladies cardiovasculaires touchent tous les organes. Okay? On sait que les gens vont mourir du cœur, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le cœur et le cerveau, par exemple, sont reliés ensemble. Donc, les gens qui ont des maladies cardiaques vont être plus à risque de faire des AVC.
C'est ça.
Et lorsqu'on a des AVC, plusieurs AVC, par exemple, peuvent mener à la démence. On s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de démence, que les gens pensent souvent que c'est causé principalement par la maladie d'Alzheimer, il y a le spectre maintenant, la maladie cardiovasculaire, qui est une des principales causes aussi de démence. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on s'aperçoit.
Donc, quelqu'un qui aura une maladie cardiovasculaire, une maladie cardiaque, qui sera à risque, aura aussi un risque accru de développer l'Alzheimer.
Oui, les patients qui ont des arythmies, par exemple, vont être 2-3 fois plus à risque, par exemple, d'avoir des maladies AVC qui peuvent mener jusqu'à la démence, donc des troubles cognitifs d'origine vasculaire. Les gens qui ont une maladie cardiaque athérosclérotique, donc un rétrécissement des artères, vont aussi avoir des rétrécissements des artères au niveau des cerveaux, au niveau du cerveau, des reins et des autres organes. Donc, c'est quelque chose qui est systémique. Quand on regarde les artères au microscope, on s'aperçoit que les artères sont malades. Donc, si vous avez avez des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, vous avez des facteurs de risque pour développer des AVC qui peuvent mener à la démence. Et on sait aujourd'hui au Canada, par exemple, que 9 personnes sur 10 ont au moins un facteur de risque de développer la maladie cardiovasculaire ou AVC.
Wow. Et dans le cas d'une tachycardie comme celle de Christine, est-ce que ça rentre aussi dans vos statistiques?
Ça rentre dans le spectre, oui, des maladies avec arythmie. C'est un problème électrique intrinsèque, donc souvent les artères du cœur ne seront pas touchées. Donc c'est uniquement un problème électrique. Tout le monde a entendu parler d'un cardiostimulateur ou un pacemaker en anglais.
Ouais.
C'est pour corriger, par exemple, le courant électrique. Et lorsque les patients vont avoir trop de crises incapacitantes, on peut des fois aller brûler le courant électrique à l'intérieur du cœur. Puis à ce moment-là, si on veut faire taire le signal anormal qui induit l'arythmie au niveau du cœur.
Vous avez vécu ça souvent, Christine?
Oui,
vous,
moi, mes premières crises, c'était à 15 ans.
Ouais.
Tout simplement, je me suis baissée pour mettre les lacets de mes chaussures et je me suis relevée, la crise s'est déclenchée. Je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Donc, j'étais en France, on a appelé le cardiologue qui est venu à la maison. Parce qu'à ce temps-là, il y avait encore des visites à la maison.
Les cardiologues qui vont à la maison,
oui,
ça
oui,
c'est
oui.
gros luxe.
C'était il y a bien longtemps. Il y a 40 ans. Et puis, après, on a fait des examens, puis on a découvert que j'avais ce problème-là de tachycardie, oui.
Est-ce que c'est génétique?
C'est pas génétique, mais j'ai deux cousines qui en font, par contre. Et mon grand-père est décédé d'une crise cardiaque. Mais je parlais tout à l'heure avec le docteur Noiseux qui me dit que c'est pas génétique.
Donc, c'est pas
et mon cardiologue me l'a confirmé.
Il y a des composantes génétiques, il y a des familles.
Mais ça veut pas dire qu'elle va mourir du cœur, Christine.
Pas nécessairement, non.
Merci.
Ça vous part bien la semaine. Hein? Ça part bien la semaine.
Ça part bien la semaine, ouais. Isabelle.
Mais je veux juste reprendre un peu ce que vous avez dit au début. Vous trouvez jeune, 52 ans, de décéder d'un AVC. C'est quelque chose qui
se produit. Qu'il y a plus jeune aussi.
On retrouve des maladies, des fois des malformations artério-veineuses, des anévrismes par exemple. On a des jeunes, adolescents, dans la vingtaine, dans la trentaine, qui décèdent. C'est pas quelque chose de si rare que ça. Et des fois, ça peut être aussi la première manifestation. Ça veut pas dire qu'on doit avoir nécessairement un problème au niveau du cœur avant d'avoir, par exemple, un AVC. Donc, c'est quelque chose qui peut être le premier symptôme. Donc, il faut être à l'affût. Il faut connaître ces choses-là. Si...
Mais dans le cas de l'acteur, c'est parce que je pensais entre autres à l'acteur Luke Perry. C'est pour ça que je disais ça. Puis je me disais, mon Dieu, au début, je pensais vraiment que c'était une crise cardiaque. Je me disais, 50 ans, 52 ans, mourir d'une crise de cœur, comme on dit, une crise cardiaque, c'est jeune. On s'imagine que ça prend quand même quelques années de stress, de café, de tout ce que vous avez nommé avant, avec notre cœur s'use et tout. Mais évidemment, il y a toute la composante génétique, mais ça me paraissait jeune. Puis finalement, on découvre que c'est peut-être plus un accident cardiovasculaire qu'il a eu.
C'est une première manifestation.
La différence entre les deux, d'ailleurs, peut-être, docteur Noiseux, nous dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui... C'est deux problèmes de santé différents, là, ou c'est relié?
C'est relié, c'est ça. Le cœur, le cerveau, tous les artères sont reliées, en fait, dans le système cardiovasculaire. Puis les gens qui ont des facteurs de risque, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, donc le cholestérol, le stress, les facteurs génétiques, le fait de fumer, tabagisme, etc., vont altérer les artères. On sait que les artères du cœur sont petites, et puis certaines personnes ont des artères encore beaucoup plus petites. Le fait d'avoir un rétrécissement par accumulation du cholestérol, du calcium, vont faire une manifestation, comme par exemple l'angine. L'angine, c'est une douleur à l'effort. C'est une douleur qui dure quelques secondes à quelques minutes. Classiquement, irradiation au bras gauche, la mâchoire peut être associée avec un essoufflement, la diaphorèse, la sudation. Ça, c'est l'angine. L'angine dure quelques minutes.
Et ça, une angine par rapport à une crise cardiaque,
c'est quoi la différence? C'est le début du spectre. Donc, quelqu'un peut souffrir, même de façon quotidienne, d'avoir des crises d'angine. Il sait qu'en prenant un peu de repos, en arrêtant l'exercice, l'angine va disparaître. Mais ça témoigne d'un problème grave au niveau du cœur. Et lorsque le rétrécissement de l'artère devient complet, l'artère peut bloquer, là, à ce moment-là, l'angine peut se transformer en infarctus. Et là, l'infarctus... c'est la complication extrême, c'est-à-dire qu'il y a une portion du cœur qui va mourir. Et ça, la douleur persiste. Donc, ça
va mourir?
Une portion du cœur, va être atteinte, donc il va manquer de sang dans le territoire du cœur. Et si on n'est pas capable de débloquer l'artère, que ce soit avec un cathétérisme cardiaque, que ce soit avec un médicament qui fait fondre le caillot ou des pontages coronariens, cette portion-là du cœur peut mourir de façon irréversible. Et là, la personne va fonctionner avec un cœur beaucoup plus faible. Donc, il peut développer éventuellement des signes, des symptômes de l'insuffisance cardiaque. Donc, un cœur qui est incapable, si on veut, de vaquer...
De faire son travail.
Oui, son travail quotidien. Donc, l'angine, c'est le début du spectre, donc un peu moins grave. Et l'infarctus, c'est le spectre à l'extrême. Au niveau du cerveau, c'est la même chose. Les gens peuvent faire une ischémie cérébrale, on appelle transitoire, qui dure quelques secondes, quelques minutes. La perte de vision, par exemple, la vision trouble, un étourdissement, ou même des fois, ne plus être capable de parler. Et si ça dure quelques heures seulement, c'est ce qu'on appelle transitoire. Mais ça témoigne d'un problème grave à l'intérieur du cerveau, des artères. Et lorsque la maladie va aller maintenant, va compliquer, va aller maintenant plus grave, il peut y avoir une occlusion complète. Et là, à ce moment-là, tu as un AVC complet. Et là, la personne peut complètement rester incapacitée, peut même décéder.
Wow. Dans votre cas, évidemment, est-ce qu'on peut dire que c'est plus léger quand même, la tachycardie? Si on a une maladie de cœur à choisir, on prend celle-là?
J'avoue.
On prend celle-là?
Oui, on va prendre celle-là.
On prend celle-là.
C'est ce que j'ai choisi.
Finalement, c'est ça. Vous la contrôlez bien, finalement, cette maladie-là? Vous prenez un médicament tous les jours?
Oui, j'ai un médicament tous les jours. Je fais des crises. Au début, quand ma première crise a eu lieu, quand j'avais 15 ans, je faisais une crise régulièrement le 1er novembre de chaque année. Est-ce qu'il y a un facteur émotionnel avec ça? On sait que 1er novembre, la Toussaint, la fête des morts en France, je ne sais pas. En tout cas, 1er novembre, là, pendant peut-être 5 ans, j'ai eu une crise régulièrement. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai été bien suivie, mais j'ai quand même testé 3-4 hôpitaux, malheureusement. La dernière, un 14 juillet.
Il venait plus chez vous, le cardiologue, c'est sûr?
Non. Un 14 juillet, mais l'avantage, entre guillemets, c'est que on n'attend pas, on est tout de suite, on arrive au triage.
14 juillet,
on passe
fête des Français.
Il y
a quelque chose dans les fériés ou dans les anniversaires chez vous, mais est-ce que c'est le stress? Est-ce que ça peut être, c'est relié au stress, la tachycardie?
Oui,
il y a une hypersensibilité probablement de base chez madame ici. Et par exemple, une émotion, un stress peut amener une exacerbation des hormones de stress circulantes puis peut faire en sorte que le cœur, à ce moment-là, s'emballe. Et puis, c'est comme un réseau électrique un peu chaotique, là, si on veut. Là.
Oui. D'ailleurs, il y a 2 ans, vous avez sorti un livre dont les profits vont à la fondation Doc Vélo du CHUM pour les patients atteints de maladies cardiaques et de cancer également. Donc, si les gens veulent se le procurer, ça s'intitule « Je n'ai jamais osé te dire ». Puis c'est des personnalités qui...
C'est ça. Le concept, c'est qu'on a 40 artistes qui ont écrit une lettre à la personne de leur choix qui commence par « Je n'ai jamais osé te dire ». Et mon concept, c'était que les mots viennent du cœur et l'argent repart en cardiologie. Donc voilà.
C'est une belle idée. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec, bien sûr, Christine Carrier et le docteur Nicolas Noiseux. Comme on a un cardiologue en résidence dans notre studio, si ça vous tente de lui poser des questions, bien sûr, ne vous gênez pas. 514-790-9850. Sans frais, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Vous êtes conscient, bien sûr, qu'il ne peut pas vous faire une consultation très personnalisée, mais question générale là, qui pourrait intéresser tout le monde, bien sûr, ça c'est très à propos. On sait qu'au Québec, il y a 9 personnes sur 10 là, qui ont au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. C'est pas rien. On va décrire les symptômes aussi parce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les deux sont touchés, mais quand il s'agit de crise cardiaque, par exemple, on n'a pas les mêmes symptômes. Et ça, c'est peu su encore. Les femmes n'ont vraiment pas les mêmes symptômes de crise cardiaque que les hommes. Ça n'a pas l'air du tout de la même affaire. Le docteur va nous dire comment différencier l'un et l'autre. À tout de suite, tout le monde. On est en compagnie de Christine Carrier, qui, est depuis son adolescence, doit passer à travers des crises de tachycardie supraventriculaire. Son cœur qui s'emballe vite, là, comme à la vitesse d'un cheval au galop, parfois même 220 pulsations minute. Mais c'est contrôlé avec un médicament tous les soirs, puis son médecin, une fois par année. Fait que ça se contrôle, les maladies cardiovasculaires AVC. Évidemment, le risque d'avoir une crise cardiaque, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous. On a souvent l'impression que c'est des maladies de gens plus âgés. Or, le docteur Nicolas Noiseux, qui est chirurgien cardiaque, nous dit qu'il y en a à tous les âges, en particulier l'AVC. Vous me disiez pendant la pause, docteur Noiseux, que ça vous est arrivé d'avoir des patients là, qui ont un mal de tête, tu vas à l'urgence, puis pouf, t'es parti. Là.
C'est malheureux. Des fois, c'est le premier... Le premier symptôme qu'on peut ressentir comme ça, sans aucune autre maladie. Et c'est donc, oui, c'est quelque chose qui est fréquent. Des fois, c'est aucun symptôme annonciateur.
Voilà. On a Stéphane avec nous. Bonjour, Stéphane.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, non, je vous appelle parce que moi, ma fille, elle a, depuis l'âge de 14 ans, elle avait des nausées, beaucoup de nausées, 24 heures sur 24, des maux de tête. Puis elle a été diagnostiquée d'un syndrome de Potts. C'est tachycardie aussi, je crois. C'est aussitôt qu'elle se lève, son cœur qui était à 60 ou 55 monte à 140, 160. Fait que c'est ça que ça a été. Je me demandais si ça intéresse c'est semblable à ce que madame a comme maladie, mais je crois pas, hein.
Docteur Renoisu?
Non, c'est sûr qu'il y a plusieurs spectres. La tachycardie, comme souffre ici madame, c'est quelque chose qui est très... comment je peux dire? C'est très large. Hein? Je veux dire, c'est un courant électrique sans aucune anomalie de base sous-jacente. Donc, il n'y a pas d'autres syndromes, malformations congénitales ou autres. Donc, c'est quelque chose qui... ça s'apparente finalement, c'est tout simplement un courant électrique qui est mal organisé à l'intérieur du cœur. Alors que ce qui vous concerne, c'est peut-être un peu plus complexe.
Oui, effectivement. Mais c'est inquiétant parce que finalement, tout le monde pourrait se découvrir ça un jour. Hein.
Tout le monde, oui, mais surtout à un jeune âge comme votre fille, c'est sûr que c'est un problème qui peut être très hypothéquant.
Merci Stéphane de votre question. On a Diane avec nous. Bonjour Diane.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, d'accord. Alors, moi, je voudrais partager l'expérience que j'ai vécue pour... la tachycardie de ma fille.
Oui.
Ça s'est déclaré à l'âge de 6 ans. Puis, elle a été médicamentée, comme je disais tantôt.
Ouais.
Et puis, jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est un trouble électrique, le Wolff-Parkinson-White. À la 16 ans, elle a fait une crise majeure, puis là, elle a décidé de subir l'opération. C'était une opération qu'elle savait qu'elle pouvait avoir avant, mais elle ne voulait pas. Donc, à 16 ans, elle a eu cette opération-là à l'Institut de cardiologie de Montréal.
Mm-hmm.
Elle a été 5 heures sur la table d'opération, a provoqué des crises pour qu'on voit où est-ce qu'était le faisceau électrique qui était défectueux. On l'a brûlé. Et puis, depuis ce temps-là, elle n'a jamais refait d'autres crises. Il y a eu peut-être une petite sensibilité, ça a déclenché, mais elle a remarqué aussi qu'il y avait émotionnel. Donc, elle a été se calmer émotionnellement, puis ça n'a pas déclenché. Elle n'a jamais refait d'autres crises. Puis aujourd'hui, elle a 42 ans, puis tout va bien.
Tout va bien. Bon, ben ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça montre que, c'est effectivement, Dr Noiseau, il y a des opérations aussi qui...
Oui, mais le syndrome de Wolff-Parkinson-White est un bel exemple d'une anomalie là, au niveau du faisceau de conduction. Et ce qui est difficile en salle d'opération, c'est de localiser à quel endroit. Puis c'est gros comme une tête d'épingle, en fait. Et là, il faut ensuite faire l'ablation avec un petit cathéter. On va les chauffer, on va les brûler pour détruire complètement le faisceau qui est le mauvais faisceau de conduction pour qu'ensuite le vrai faisceau de conduction prenne la relève. Donc, c'est une maladie qui se traite très bien aujourd'hui. Ça.
Puis vous y allez en laparoscopie ou vous y allez...
Il faut y aller avec un petit cathéter à l'intérieur du cœur, puis on a un système de navigation en trois dimensions. Ça se fait avec des rayons X, guidance par échographie... des imageries du cœur en trois dimensions.
Et là, faites juste une petite ouverture.
C'est vraiment juste avec un petit cathéter. Donc, on fait
un cathéter?
Oui, on fait une petite ponction dans une artère, une veine, et on introduit les cathéters à l'intérieur du cœur ensuite pour...
Fascinant.
Oui,
c'est qu'on n'a même pas de cicatrice.
Aucune cicatrice, non.
Wow. On a Pierrette avec nous. Bonjour, Pierrette.
Oui, bonjour. Moi, c'est assez similaire. Moi, depuis l'âge de 8 ans, je faisais de la tachycardie.
Oui.
Puis j'étais médicamentée, mais je suis une personne hyper sensible, très, très nerveuse, tu sais. Et puis à un moment donné, ils ont décidé de... ils ont dit, c'est votre problème électrique. Alors, ils m'ont fait une intervention. Ils ont provoqué comme des courts-circuits, puis ils ont brûlé.
C'est ça.
Depuis ce temps-là, je suis une femme neuve.
Bon.
C'est sûr, je me suis calmée le système, parce que, tu sais, quand les gens qui sont sensibles et nerveux, là, tu sais...
Ouais.
Il faut faire attention.
Non, mais il faut se calmer le système, c'est sûr. Ben oui.
Parce que, tu sais, on ne savait jamais, je me sens bien aujourd'hui.
Mm.
Juste une petite affaire, ça m'énervait. Je faisais une crise, j'étais toujours à l'hôpital. Puis aussitôt qu'ils ont provoqué des courts-circuits, là, puis tout est rentré dans l'ordre. Puis je suis une femme très heureuse.
Bon. Merci beaucoup, Pierrette. Ghislain, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Ghislain.
Ben écoute, moi, en fait, j'appelle pour deux raisons. Juste pour dire aux gens qui ont des problèmes cardiaques, peu importe l'âge, là, de pas se décourager. Puis je le dis parce que j'ai passé par là. Moi, j'ai toujours, tu sais, tantôt, vous avez mentionné que souvent, on pense que maladie cardiovasculaire veut dire maladie de vieux.
Oui.
Je me suis souvent senti comme ça, surtout les premiers temps qu'on m'a transféré de Sainte-Justine à l'Institut de cardiologie.
Mm-hmm.
J'allais là avec mon grand-père pour son suivi à lui. Puis là, j'y allais pour moi. J'ai été opéré au cœur trois fois. À cœur ouvert, remplacement de la valve, plusieurs problèmes avec ça. Qui en a causé d'autres, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un pacemaker, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un problème de tachycardie. J'ai déjà monté jusqu'à mon pouls à 400. Je ne filais pas bien. qui était aussi causé en partie par la pacemaker qui avait comme quelque chose qui lui il voulait suivre. Fait que aujourd'hui, j'ai une médication qui fait qu'on je prends une pilule pour éclaircir mon sang, mm-hmm. pour éviter justement les AVC. Mais tu sais, je joue au deck hockey une à deux fois par semaine, l'été au baseball. J'ai 40 ans aujourd'hui, puis la vie est belle, j'ai des magnifiques enfants. Fait que, t'sais, tout se peut après, faut juste pas stresser, parce qu'on s'entend que le stress puis l'angoisse, ça peut causer des problèmes cardiaques. Fait que faut juste apprendre à devenir zen puis vivre avec ça en acceptant ce qui se passe.
Merci, Ghislain. Wow, quel beau témoignage d'espoir, justement, montrer. Et je pense qu'il faut le dire aussi, on a le chirurgien cardiaque, docteur Nicolas Noisier avec nous, qui est porte-parole de la Fondation des maladies du cœur et de la vessie du CHU, mais il y a aussi le Centre de cardiologie de Montréal, bien sûr, qui fait un travail extraordinaire avec le docteur Junot. Il y a des spécialistes là, qui sont fabuleux. Vous faites, on a des bons spécialistes du cœur, il faut le dire, hein, docteur Noisier, au Québec. Au CHUM, d'ailleurs, il y a des nouvelles technologies avec des injections de cellules souches directement dans le cœur. Parlez-nous un petit peu de ça.
Oui, alors comme présenté, monsieur, c'est une belle histoire. En fait, les technologies ont évolué beaucoup. Les chirurgies sont de moins en moins invasives. Ça veut dire pas juste la longueur de la cicatrice, mais aujourd'hui, on fait des chirurgies avec des robots, on fait des chirurgies avec des caméras, on fait des choses qui étaient tout simplement comme le Wolf Parkinson-White. Traditionnellement, il fallait une opération à cœur ouvert pour aller brûler. Maintenant, on est capable avec des cathéters. Donc, la technologie ne cesse pas d'avancer. En chirurgie cardiaque, nous, on est souvent appelés après les cardiologues. Donc, quand il y a des complications, par exemple, la défaillance cardiaque suite à un infarctus. Donc, on peut avoir une portion du cœur qui demeure paresseuse ou qui ne fonctionne plus après un infarctus. Donc, on a recours à la transplantation cardiaque seulement chez les patients, mettons, en phase terminale ou très avancée. Mais on a développé des nouvelles technologies de transplantation de cellules souches. Au lieu de transplanter un cœur, on transplante des petites cellules. Et on a pris, nous, au CHUM, on a fait deux projets. On a déjà 80 patients enrôlés dans nos projets. Ce sont les cellules souches des patients. Donc, on prélève dans la moelle osseuse le matin. Et en fin d'après-midi, on va transplanter les cellules directement dans le cœur. Donc, les cellules vont aider à régénérer, à réparer la portion du cœur qui est paresseuse après un infarctus.
Et ça se régénère?
Ça l'aide à la régénération, oui. On a des résultats.
Ça prend combien de temps?
Chez certains patients, spectaculaires. En l'espace d'un mois, on a vu des améliorations. D'autres patients chez qui la réponse est un peu moins marquée. Et dans mon laboratoire, on est en train de regarder pourquoi certains patients répondent bien, d'autres répondent un peu moins. Puis on est en train de modifier la fonction des cellules avec des médicaments qu'on a découverts. Donc, c'est une nouvelle génération d'études qu'on va commencer bientôt. Le domaine de la thérapie cellulaire puis la médecine régénératrice est en pleine effervescence. On a la chance d'avoir des infrastructures au CHUM très particulières. On a des salles de préparation pour les cellules souches, hein, même les salles d'opération. On a aussi des salles de perfusion d'organes. Donc, on est capable d'aller chercher des organes qui sont pas de bonne qualité pour la transplantation, puis on est capable de les améliorer à l'extérieur du corps du patient. On le fait aujourd'hui avec les poumons. On a un projet qui est débuté, on va le faire avec le cœur. Et ensuite, on va essayer d'étendre ça au niveau du foie et du rein, par exemple. Donc, on pourrait transplanter des organes qui, normalement, on les laisserait de côté parce qu'ils ne sont pas bons. Et à ce moment-là, on peut les transplanter chez des patients.
Incroyable! On dit, les deux la bouche ouverte dans ce studio comme ça. Attendez, bougez pas.
Ça l'évolue.
Oh, c'est incroyable. Médecine régénérative et l'amélioration d'organes qui sera à la rigueur, pas considérés comme viables avant et qui, aujourd'hui, peuvent être améliorés. Moi, je trouve ça fascinant, sachant que on sait qu'au Québec, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à des organes. Imaginez-le. Bougez pas, docteur Noisier. Tant qu'être venu, vous n'êtes pas venu pour rien. On va s'arrêter, mais on continue tout de suite après. On a tellement d'auditeurs qui veulent intervenir. On vous donne la parole tout de suite après ceci. On a Anne-Marie avec nous. Bonjour.
Bonjour, Madame Maréchal. Docteur Noisier, bonjour. Alors, je fus opérée en avril 2018 pour une artérite temporale. Alors, ça m'a beaucoup stressée. Allô?
Oui, on vous écoute,
Oui. Alors, je voulais vous savoir, docteur Noiseux, quels seraient les conseils que vous pourriez me donner. Je suis très sportive, je suis pianiste. Alors, ce qu'on m'a dit après l'opération, c'est que si j'avais pas été opérée, je risquais de perdre la vue et c'était irréversible.
Oui, oui. L'artérite temporale est une vasculite, donc une inflammation des artères. Elle touche souvent les grosses artères. C'est une, si on regarde au microscope, il y a des cellules géantes dans les parois des vaisseaux. Donc, c'est une réaction inflammatoire. Le traitement de ça consiste à prendre des corticostéroïdes pour éliminer justement l'inflammation. Et lorsque l'inflammation continue, ça peut aller jusqu'à bloquer les artères. Ça peut aller jusqu'à mettre, oui, c'est ça, des problèmes aux yeux. Donc, on peut devenir aveugle, mais aussi on peut faire un AVC. On peut mourir des complications si c'est pas traité.
Et ça vient de quoi?
Vous
dites inflammation.
Il y a plus de femmes que d'hommes qui vont être atteints. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel âge. Ça va se manifester par perte subitement de la vue d'un œil. Ça peut être transitoire. Des fois, c'est juste une céphalée, un mal de tête qui dure depuis plusieurs jours. Faut être à l'affût que c'est quelque chose qui peut se produire. Donc, si un mal de tête se poursuit plus que 2 ou 3 jours, il faut vraiment parler à son médecin pour pas laisser les choses aller.
Mmh. Alors, ce que j'ai fait, c'est malheureusement, c'est que j'avais mal à la tête, j'avais comme une roche en arrière de l'œil. J'ai souffert d'une paralysie de la joue gauche. Après ça, mal de dents, aussi à la gorge. Et là, j'ai pris panique parce que je suis une personne forte et je vais rarement voir les médecins. Alors, pour le futur, vous me suggérez quoi? Est-ce qu'il peut y avoir un transfert de cette maladie-là, si on peut appeler ça une maladie, sur le côté droit?
Bien, si vous avez été traité, s'il n'y a plus d'évidence, c'est dur. Les récidives, c'est dur à prévoir, en fait. Là. L'important, c'est que vous êtes au courant que si quelque chose d'autre se produit, vous en reparlerez à votre médecin. Maintenant, c'est quoi les risques que ça se produise de l'autre côté? C'est très difficile à dire.
Ouais, merci de votre question. Bonjour, Anna.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je voulais partager mon expérience parce que moi, j'ai souffert d'arythmie pendant environ 8 ans et j'ai eu 3 ablations en 1 année tellement l'arythmie était sévère. Et les ablations ont pas donné grand-chose parce qu'à la dernière ablation, ils se sont aperçus que le champ arythmique était entre le myocarde et le cœur, près de l'aorte.
Ablation de... Peut-être, docteur.
L'ablation, c'est les champs arythmiques qui sont dans le cœur.
Pour l'arythmie, un peu comme madame ici, le même problème. Oui, le courant électrique peut originer plus que d'un seul endroit. Donc, le traitement consiste en l'ablation. Maintenant, dépendamment où se situe le courant, il y a des endroits.
Mais ablation, ça veut dire qu'on enlève,
on
enlève
brûle,
quoi?
On brûle. En tout cas, classiquement, c'est qu'on appelle comme ça, mais on dit le terme général, c'est plus une ablation. Donc, on va faire disparaître, si on veut, avec le cathéter, mais ça peut provenir plus qu'un d'un seul endroit dans le cœur.
J'ai France qui me pose la question, est-ce que le fait d'avoir des souffles au cœur, par exemple, ça peut amener à d'autres maladies cardiaques, de l'arythmie, de la tachycardie ou des problèmes plus graves encore?
Oui, le souffle au cœur, ça ne dit pas grand-chose en fait. C'est lorsqu'on écoute avec un stéthoscope, on entend un bruit anormal à l'intérieur du cœur. Le fait d'avoir un souffle peut être tout à fait normal, donc ça peut être physiologique, surtout chez les patients plus maigres, les jeunes, sans qu'il y ait de pathologie. Mais lorsqu'on a un souffle, il faut se demander s'il n'y a pas une valve avec une malformation, un rétrécissement ou une fuite. Donc, soit un blocage ou soit une fuite de la valve. Et oui, ça peut mener ensuite à des complications. Ça peut même être très incapacitant. Il peut y avoir un caillot qui peut aller au cœur, peut entraîner de l'arythmie. Ça peut entraîner aussi l'incapacité de vaquer à ses occupations puis beaucoup d'essoufflement.
Puis un souffle au cœur, on a ça quand on est, non? Est-ce qu'on peut le développer au fil des ans?
On peut le développer. On peut naître avec une malformation au niveau d'une valve. Ça arrive, comme par exemple une valve aortique avec 2 feuillets, qu'on dit la bicuspidie, qui est la malformation la plus fréquente chez les adultes. Et puis, ça va mener à le rétrécissement qui va nécessiter un remplacement de la valve. Mais lorsqu'on est, habituellement, il n'y a pas vraiment de souffle. Mais c'est sûr que le jeune bébé, on a le canal artériel, on a la circulation fœtale qui est compliquée à expliquer. Mais ça, c'est physiologique encore. Mais tout ça, là, un bébé normal ne devrait pas avoir de souffle au cœur.
Mmh. On a Normand avec nous. Bonjour.
Bonjour. En décembre dernier, j'ai subi tout ce qui semblait être un ICT. J'ai perdu la vision dans la partie supérieure de mon œil droit et pendant 5 minutes. Et j'ai rencontré un ophtalmologue, qui m'a référé un cardiologue. Puis suite à un test à l'effort, on m'a demandé de porter un halter pendant 24 heures. Suite à ça, un Doppler de la carotide. J'ai passé une échographie transœsophagienne et aussi un scan du cœur, puis finalement, j'ai passé un scan au cerveau et tout était normal, à part qu'ils ont trouvé un foramen ovale perméable dans le cœur qui doit être bouché.
Ah, ça, c'est une belle histoire. En fait, vous avez eu toute la batterie d'examens.
tout ça en 2 semaines.
Ah, ben c'est efficace, mais c'est ça. En fait, les complications. Il faut voir le cœur comme le cœur droit, le cœur gauche. Le cœur gauche, c'est ce qui pousse le sang au cerveau et dans les autres organes. Le cœur droit va pousser le sang au niveau des poumons. Et lorsqu'il y a un caillot au niveau du cœur gauche, c'est lui qui peut mener à un ICT ou un AVC ou des embolies dangereuses. Mais ceux qui ont des foramen ovales,
ouais,
c'est possible qu'il y ait un caillot du cœur droit qui peut se ramasser dans la circulation du côté gauche et à ce moment-là peut emboliser. Donc, si on n'a rien d'autre trouvé chez vous, pour expliquer la symptomatologie, à ce moment-là, ce serait pour le moins une bonne idée que votre médecin a suggéré de fermer le foramen pour éviter qu'un autre épisode se produise.
Parce que je me souviens d'avoir interviewé l'année dernière quand on a fait notre documentaire sur José Boudreau et son histoire d'AVC, il en a quand même eu deux. Il y avait à la base un foramen ovale dans son histoire médicale et j'avais interviewé Christopher Le Tang, le joueur de hockey, qui lui aussi a eu un AVC à cause d'un foramen ovale. Donc, dans un cas comme ça, quand on sait qu'on a ça, il vaut probablement, comme vous venez de le dire, en prévention, docteur,
oui,
se
mais
le faut faire.
Oui, mais il ne faut pas alarmer les gens chez qui on trouve un foramen ovale. C'est vraiment le diagnostic d'exclusion. Monsieur ici explique qu'ils ont fait tous les tests et on n'a rien trouvé d'autre.
Donc, on ne s'inquiète pas dans ce temps-là.
Bien, je veux dire, on ne s'inquiète pas. C'est qu'ils n'ont rien trouvé d'autre. La seule chose qu'ils ont trouvé d'anormal, c'est un petit trou dans le cœur. Mais encore là, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est possible qu'une fois le foramen ovale fermé, qu'il y a encore un symptôme qui se produise par après, c'est possible, là, tout ça. Là. C'est assez complexe. Peut-être qu'il y avait un petit caillot qui a tout simplement passé, puis on n'en entend plus parler, mais c'est quelque chose qui peut revenir. Le foramen ovale, on a beaucoup de personnes qui en ont d'ouvert, et puis ça ne cause pas nécessairement de symptômes ou de problèmes.
Mm-hmm. Claude est avec nous. Bonjour.
Bonjour, madame. Merci de votre émission à vous et aux vos médecins. Moi, j'ai fait deux infarctus au mois de septembre. Et puis, on m'a posé des springs, qu'ils appellent, là,
des stents. Des endoprothèses.
Ouais.
Ouais. Et puis, le docteur, il m'a passé une butylaire après ça, après mes opérations, tout ça. Puis, il m'a dit que, il y a 10 ans, j'avais une veine qui avait bloqué dans mon cœur. Et puis, que avec le temps, il s'est formé d'autres veines après celle-là qui a fait la fonction à place de la veine qui était bloquée.
Ah!
Mais c'est un bel exemple qu'on voit régulièrement de gens chez qui une artère, on va parler d'une artère et non pas d'une veine. Ce qui nourrit le cœur, c'est l'artère. Et vous avez probablement eu un blocage dans le passé. Peut-être même ça s'est déroulé sans aucun symptôme. Les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. La nature va chercher maintenant à contourner ce qui est bloqué. Et on voit des fois des patients avec des artères nouvelles qui contournent, si on veut, l'artère bloquée et qui permettent à ce moment-là au cœur de rester vivant puis de bien fonctionner.
Voilà pour votre réponse. Justement, il nous parlait d'infarctus. On disait tout à l'heure qu'on allait donner la différence de symptômes entre la crise cardiaque sentie par un homme et sentie par une femme. Si vous voulez bien, on va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, on va parler de cette différence parce qu'il y en a une notable. Les hommes vont le ressentir d'une façon, le malaise cardiaque, et les femmes vont le ressentir d'une autre façon. Et souvent, ce qu'on remarque depuis les dernières années, je me souviens d'avoir été porte-parole de la Fondation des maladies du cœur pour faire connaître aux femmes un peu mieux ces symptômes-là parce qu'on ne les connaît pas puis on a tendance à se méprendre là-dessus puis on éviterait sans doute bien des problèmes à bien des femmes si on connaissait mieux notre corps et la façon dont on sent certains symptômes. Alors restez avec nous tout le monde et puis on revient dans 2 minutes. On a Gaétane avec nous. Bonjour Gaétane.
Bonjour Madame Maréchal, bonjour Docteur Noiseux.
Bonjour.
Moi je suis, depuis que je suis jeune, je fais de l'arythmie puis... À l'adolescence, à l'âge adulte, on m'a donné de l'indéral et différents médicaments. Maintenant, à la retraite, j'ai comme développé, bien, suite à ça, comme, en tout cas, j'allais à l'hôpital, puis on me disait que je faisais des crises de panique pour l'arythmie. Après ça, à l'âge adulte, je suis à la retraite, comme je disais. Maintenant, j'ai fait la fibrillation auriculaire.
Mm-hmm.
En 2009 que j'ai commencé. Puis, j'ai eu des médicaments. En 2015, j'ai fait 2 petits infarctus, mais on m'a passé une coronaro et on m'a dit que les artères ne sont pas bouchées. On a passé un écho. On m'a dit peut-être que j'ai le petit trou du cœur. On m'a dit ça de même, là, j'ai pas le nom, qui est peut-être ouvert. Puis, je continue à faire de l'arythmie. J'ai fait de la fibrillation à Montréal. J'ai été à l'Institut de cardiologie.
Avez-vous une question pour le docteur? Peut-être plus large, parce qu'on ne peut pas rentrer dans votre cas très personnel, très détaillé, non. Bien sûr.
OK. C'est que c'est comme les médicaments que j'ai, c'est pas efficace. Je continue à faire de l'arythmie. C'est comme si on ne savait pas comment traiter les symptômes, puis c'est toujours au repos, en fait. Mm-hmm.
Mais il faut comprendre que les médicaments qu'on vous donne vont avoir certains effets secondaires. Il faut voir avec votre médecin si on ne peut pas changer certains médicaments, puis voir si ça ne peut pas améliorer votre condition. Il y a peut-être des petits changements à faire ici, là.
Parlons justement des symptômes, infarctus, bon, crise cardiaque versus quand on est un homme ou quand on est une femme. Les symptômes ne sont pas les mêmes, Dr Noisy. Ouais.
C'est sûr que classiquement, on sait, là, l'infarctus chez l'homme avec la douleur à la mâchoire, douleur à la bras gauche, la sudation, ça, c'est le classique. Chez la femme, c'est plus... des fois, ça peut être un petit peu plus subtil. Ça peut être plus sous forme de certains élans de fatigue. Ça peut être plus un essoufflement soudain, sans nécessairement avoir la douleur dans la poitrine. Donc, il faut être conscient que ces symptômes-là peuvent varier chez la femme. Et souvent, la femme va dire, ben là, j'ai trop travaillé, je suis fatigué, oui, ça se peut pas que ça m'arrive. Non, au contraire, il faut être très à l'écoute de son corps. Puis c'est là la campagne de sensibilisation qu'on a fait chez nous à l'hôpital, puis aussi avec la Fondation des maladies du cœur, de dire aux femmes, faut écouter son corps, faut savoir qu'on est à risque. Et lorsqu'on va aller passer des tests, ça se peut aussi que les tests ne soient pas adaptés. On fait chez l'homme classiquement l'épreuve d'effort, le tapis roulant. On met des électrodes sur le cœur, on fait un effort. Chez la femme, des fois, à cause du sein, à cause de l'anatomie, le cœur est plus petit. Des fois, on peut avoir de la misère à découvrir là, les anomalies, les changements électriques. Fait que c'est pour ça, des fois, il faut voir avec son médecin. Il y a d'autres examens. Ça peut être la médecine nucléaire, ça peut être une échographie cardiaque. Donc, on va essayer d'adapter, si on veut, pour trouver chez la femme s'il y a maladie ou pas.
Mais, Dr Noiseux, pour une femme qui nous écoute puis qui est peut-être, qui se demande, là, ça serait quoi le symptôme qui devrait nous mettre inquiéter. Nous mettre sur la piste?
Mais c'est sûr que c'est la douleur dans la poitrine, OK? Un serrement, une oppression, ça, c'est la classique. La femme va aussi le ressentir. Mais ça se peut, comme je disais, que ça soit plus subtil. C'est juste un petit pincement, ça peut être juste une lourdeur au niveau du bras sans être la vraie douleur. Parce que les hommes vont raconter comme si le bras brûle, une espèce de chaleur. Quelqu'un qui rentre un couteau dans la poitrine. Chez la femme, ça peut être plus subtil parce que le cœur est un peu plus petit.
Mais les gars, donc, c'est une vraie douleur.
Ah, c'est une grosse douleur, là, hein? Ça ne trompe pas. Puis souvent, en plus, chez la même personne, ça va être la même douleur. Donc, si l'homme raconte qu'une fois, c'est la douleur au bras, la douleur au mâchoire, ça risque d'être pas mal souvent le même tableau. Alors que chez la femme, ça peut être plus subtil que ça. Donc, il faut savoir.
Puis la mâchoire, c'est quel genre de symptômes qu'on a?
Comme une lourdeur, comme si les gens mangent ils disent mâcher comme une patate chaude. C'est vraiment, là, c'est la douleur, une lourdeur, comme un mal de dents même. C'est très variable, mais la douleur, la mâchoire, le cœur, parce qu'on n'a pas une douleur précise, comme si on se fait mal au bout du doigt, on sait que c'est là. Alors que le viscère, le cœur à l'intérieur, lui, les nerfs sont pas de la même façon qu'à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que...
Mais finalement, c'est quand même assez vague, là, comme symptôme.
C'est pour ça qu'on le dit, c'est très vague.
Là, donc, voyons aussi.
Il faut le savoir que la maladie n'atteint pas juste les hommes, ça atteint les femmes.
Exact.
Et lorsqu'on pense avoir des symptômes, la recommandation que je vais vous faire, c'est d'en parler à votre médecin. Ou si les symptômes se poursuivent depuis trop longtemps, à ce moment-là, il faudrait consulter rapidement.
Et est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas le déceler à moins d'être un infarctus déjà ou un...
Ben, c'est comme je disais, l'angine, c'est comme un infarctus en moins grave. Donc, c'est une douleur qui dure quelques secondes, quelques minutes. Si, une fois rendu à l'urgence ou lorsqu'on fait l'examen, on fait un électrocardiogramme au repos, donc on met des fils électriques sur le thorax, ça se peut que l'électro soit tout à fait normal parce qu'on n'a pas déclenché un effort. Donc, c'est pour ça qu'on va faire le test qu'on appelle une épreuve d'effort, un tapis roulant, ou avec une pharmacologie, on va induire, si on veut, un effort du cœur pour démasquer cette souffrance-là au niveau du cœur. Ouais. Fait que ça se peut que l'examen soit normal au début.
Moi, j'ai eu un petit incident au mois de décembre. Je suis allée à l'Institut de cardio et on m'a conseillé de me procurer un espèce de petit... Ben, vous le voyez, je l'ai sorti, là, mon Cardia, K-A-R-D-I-A. Je ne suis vraiment pas payée par compagnie. Je l'ai payé. Ça coûte à peu près 100 $ US. Puis vous téléchargez l'application juste pour vous rassurer quand votre cœur, justement, part comme ça sans vous prévenir. Ben, ça vous fait un ECG, finalement. Puis ça vous dit si vous avez... Si c'est normal ou non. C'est très rassurant parce que dans le fond, il y a une grande composante stress là-dedans. Et oui. Boissons énergétiques aussi, vous me disiez.
Mais c'est plus pour les arythmies, ça. Oui. C'est pour détecter les arythmies. Pour ce qui est de détecter, par exemple, un infarctus, ça prend des examens beaucoup plus précis que ça, si on veut. Là.
30 secondes sur les boissons énergisantes parce que...
Mais c'est sûr que ça contient, on parle de caféine, hein. Qu'est-ce qui va induire l'arythmie, le chocolat, la caféine, le stress, la cigarette, mais tout ça peut être aussi mis dans des boissons énergétiques, le Coca-Cola, le café, mais il y a d'autres sortes, le Red Bull, par exemple, contient énormément de caféine, puis d'autres substances qui peuvent induire chez une personne sensibilisée des arythmies.
Donc, à proscrire.
Ben, à y aller avec modération. Et si vous êtes à risque, des maladies cardiovasculaires, peut-être éviter tout simplement.
Il va falloir que vous reveniez nous voir, Dr. Nicolas Noiseux, juste pour nous parler de cette médecine régénérative, parce que juste là-dessus, c'est fascinant.
Oui, mais au niveau de la transplantation, on sait qu'on a besoin de découvrir les nouvelles technologies, les cellules souches, les cœurs mécaniques et les nouveaux organes artificiels. C'est le futur.
Merci beaucoup de votre visite, très appréciée. Du fond du cœur, Dr. Nicolas Noiseux du CHUM. Merci Christine Carrier.
Merci Isabelle.
Merci à tout le monde, on se retrouve demain.
Merci, docteur.